La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Les lendemains de la révolution n'en finissent pas de déchanter au Soudan.
Et le conflit, lui, n'en finit pas de s'envenimer entre les deux forces qui ont chassé du pouvoir le 11 avril, le dictateur Omar el-Béchir. D'un côté, les militaires bien décidés à garder les rênes de la transition politique, et de l'autre, les civils qui, eux, ne veulent pas se faire voler leur révolution. La Soudan Tribune, quotidien en ligne et en langue anglaise de Khartoum, nous livrait au beau milieu de la nuit le dernier acte de cette lutte entre alliés d'hier. Le commandant en chef des putschistes, le général Abdel Fattah al-Burhan, aux commandes du Conseil de transition militaire, annonce qu'il cesse toute discussion avec les forces civiles, qu'il ne laissera pas, je cite, le Soudan entre les mains d'un nouveau clone de régime totalitaire, qu'il va donc convoquer d'ici 7 mois des élections générales. C'est la contre-révolution incarnée par l'armée qui tente donc de dévorer la révolution, écrit en substance Simon Tisdall dans The Guardian. Ça avait commencé hier lundi avec une explosion de violence meurtrière pour disperser, détruire les sit-ins tenus dans le centre de Khartoum par les forces civiles. Pas moins de 35 morts, confirme The Sudan Tribune, parmi les manifestants pacifiques où l'on trouve toujours de très nombreuses femmes mobilisées. La répression contre la rue n'avait fait que croître depuis des semaines, mais jamais elle n'avait atteint une telle ampleur. Le général al-Burhan a eu beau, comme à chaque fois, rejeter toute responsabilité dans ces violences, appeler à une enquête indépendante et renvoyer la faute sur les sanguinaires milices paramilitaires des RSF, avec lesquels il nie tout lien, le subterfuge ne prend pas. Et bien avant que le général annonce la fin des pourparlers avec l'Union des Forces Civiles, cette nuit, cette même union avait de toute façon déclaré qu'elle ne s'assirait plus à la table des négociations avec les militaires.
Et il faut aussi replacer cette explosion des tensions soudanaises dans un contexte plus régional.
Et c'est ce que nous permet là encore The Guardian, pour qui ce n'est pas un hasard si les militaires soudanais sont passés à la manière forte au lendemain d'une série de rencontres entre leurs leaders et des représentants des régimes autoritaires arabes. Ces trois puissants voisins que sont l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis, affirme Simon Tisdall, ne veulent pas d'un Soudan véritablement démocratique. Alors ils font tout en sous-main pour saper les aspirations du mouvement de réforme civile. À défaut d'avoir pu sauver Omar el-Béchir, ils soutiennent à présent le maintien au pouvoir des militaires qu'ils auraient donc poussé à hausser le ton hier. Et l'on ne lira pas autre chose sur le site d'Al Jazeera, où l'on fait bien sûr le parallèle avec la manière dont les printemps arabes de 2011 et après ont été étouffés dans la région, ou bien repris en main par l'armée en Égypte avec l'arrivée au pouvoir du général al-Sisi. Mais au moment d'étudier les scénarii possibles pour le Soudan, Al Jazeera n'exclut pas que, malgré la violence toujours plus forte qui leur est opposée, les Soudanais ne poursuivent leur mobilisation non violente faite de désobéissance civile et de grève générale pour refuser que leur destin ne soit écrit au Caire, à Riyad ou à Abu Dhabi. The Guardian, enfin, appelle les grandes puissances occidentales à ne pas rester sourdes à l'appel que leur lancent les Soudanaises et les Soudanais, un appel à la démocratie, à la liberté. Ça passera forcément par Donald Trump, l'Américain, même si celui-ci, pour l'instant, résume sa politique arabe à une politique pro-saoudienne. Simon Tisdall s'interroge enfin, que fait aussi l'ancienne puissance coloniale, le Royaume-Uni? Son ambassadeur à Khartoum est, paraît-il, très actif sur Twitter pour appeler civils et militaires à négocier ensemble les contours de la transition démocratique. Trop peu et surtout beaucoup trop tard.
Et puis on reste sur le continent africain, cette fois en Afrique du Sud, où la mémoire de l'apartheid se joue en ce moment dans les tribunaux.
Et l'histoire retiendra sans doute avec le Sowetan, le quotidien des townships de Johannesburg, que le premier de ces tribunaux aura été la haute cour de South Gauteng. C'est là, ce lundi, qu'a été ouverte la voie vers le procès de João Rodrigues, un retraité de la police sud-africaine qui sera donc bien jugé pour un meurtre commis en 1971. Celui du militant anti-apartheid Ahmed Timol. C'était une figure du mouvement civique contre la ségrégation raciale. Il est mort défenestré en 71, donc du 10e étage des bureaux de la police de l'apartheid, alors qu'il se trouvait seul dans une pièce avec l'agent João Rodrigues. L'enquête à l'époque avait conclu au suicide, mais la politique de vérité et de réconciliation engagée 15 ans plus tard en Afrique du Sud avait remis cette affaire en lumière. En 2017, un juge avait finalement conclu que Timol avait bien été assassiné et en 2018, João Rodrigues était formellement inculpé. Et hier, enfin, on a appris que ses recours avaient été rejetés, qu'il y aurait bien un procès. Et c'est une victoire pour la famille d'Ahmed Timol, une victoire aussi, beaucoup plus largement, pour des centaines d'autres familles sud-africaines qui exigent la vérité sur la mort de leurs proches. Les crimes commis par la police de l'apartheid ne pourront plus être dissimulés dissimulée sous le tapis, se félicite The Sowetan quand le Times de Johannesburg presse la justice de s'emparer de ces crimes. Ceux qui les ont commis vont bientôt mourir, alors il est vital qu'ils répondent à leurs actes, que vital également et surtout pour les familles qui réclament justice. Ainsi parle dans le Times Yasmin Souka, elle est ex-membre de la Commission sud-africaine pour la vérité et la réconciliation, un organisme dont on parle aussi dans la presse ces jours-ci, parce qu'il vient d'ouvrir l'accès de toutes ces archives et de toutes ces données au grand public. Pour le journal le Daily Maverick, c'est rien de moins qu'un mémorial vivant pour les victimes invisibles de l'apartheid, un outil indispensable pour sortir de l'amnésie collective qui reste trop souvent la norme chez les Sud-Africains et qui empêche les familles de faire leur deuil, de se reconstruire tout en reconstruisant leur jeune nation par la même occasion.
Merci Camille Magnard.